Chapitre 6. De la nuit, elle ne dormit pas, avec l'affreux lancinement de ce chiffre en travers du crâne. 20 000 francs. 20 000 francs. Mais où les trouver? À qui écrire? Et si peu de temps devant elle? Des noms, des figures passaient en éclairs, traversaient un instant au plafond le reflet bleuâtre de la veilleuse, pour s'évanouir et faire place à d'autres noms, d'autres figures qui disparaissaient aussi vite. Fredet, mais elle venait de s'en servir. Samy, sans le sou jusqu'à son mariage. Puis quoi, est-ce qu'on emprunte 20 000 francs? Est-ce qu'on les prête? Il fallait ce poète de province. À Paris, dans la société, l'argent ne joue qu'un rôle occulte. On est censé en avoir, vivre au-dessus de ses misères, comme dans les comédies distinguées. Manquer à cette convention, ce serait s'éliminer soi-même de la bonne compagnie. Et pendant que Madame Astier songeait dans la fièvre, le large dos de son mari, soulevé d'un souffle égal, s'arrondissait à côté d'elle. Une des tristesses de leur vie à deux, ce lit bourgeoisement partagé, où ils dormaient depuis 30 ans, côte à côte, sans rien de commun que leurs draps. Mais jamais l'indifférence de son morne compagnon de litière ne l'avait ainsi révolté, indigné. L'éveiller, oh, à quoi bon? Lui parler de l'enfant, de sa menace désespérée? Elle savait bien qu'il ne le croirait pas, qu'il ne retournerait pas même cet énorme dos en guérite où il s'abritait. Un moment, l'idée lui va de tomber dessus, de le cribler de coups de poing, de coups de griffe, de crier bien fort à ce lourd sommeil égoïste. « Léonard, vos archives brûlent !» Et cette idée d'archives, lui traversant follement la tête, peu s'en fallut qu'elle-même se précipita du lit. « Mais trouvez les 20 000 francs, là-haut, dans le cartonnier ! Mais comment n'y avait-elle pas songé plus tôt ? Jusqu'au jour, jusqu'au dernier crépitement de la veilleuse, elle combina son affaire, immobile, apaisée, un regard de voleuse dans ses yeux restés ouverts. Habillée de bonne heure, tout le matin, elle rôda par l'appartement, guettant son mari qui devait partir, puis changeait d'avis, faisait du classement jusqu'à déjeuner. Léonard allait, venait de son cabinet à la soupente, le bras chargé de paperasse, dispo et fredonnant, bien trop épais pour comprendre l'inquiétude nerveuse qui chargeait l'atmosphère de l'étroit logis, agitait les meubles et électrisait les battants et les boutons des portes. Calme dans son travail, il fut bavard à table, raconta d'idiotes histoires qu'elle connaissait par cœur, interminable autant que l'émiettement au bout du couteau à dessert de son éternel fromage d'Auvergne, et toujours il en reprenait de ce fromage, et toujours il ajoutait une anecdote à l'anecdote. Et comme il fut lent encore à partir pour la séance de l'Institut, précédé aujourd'hui de la commission du dictionnaire, quel temps aux plus petits détails, malgré son vouloir à elle, ne le poussait dehors. Quand il eut tourné la rue de Beaune, sans même refermer la fenêtre, elle courut au guichet de Corentine. « Vite, une voiture !» Et seule, enfin seule, elle s'élança dans le petit escalier des archives. La tête courbée à cause du plafond bas, elle essayait les clés d'un trousseau à la serrure fermant les traverses du cartonnier, et devant la difficulté, le temps qui pressait, sans hésiter, voulut faire sauter un des montants. Mais ses mains s'énervaient, elle cassait ses ongles. Il fallait un levier, un objet quelconque. Elle ouvrit le tiroir de la table à jeu, et les trois lettres, les trois charlequins qu'elle cherchait, s'offrirent à elle, griffonnés et jaunis. Oh, il y a de ces miracles! Penchée dans le cintre de la vitre basse, elle s'assura que c'était bien cela. À François Rabelais, maître en toutes sciences et bonnes lettres. n'en lut pas davantage, se cogna durement la tête en se relevant, mais ne sentit rien qu'en bas dans le fiacre qui l'emportait chez le boss de la rue de l'Abbaye. Elle descendit à l'entrée de cette rue, très courte, paisible, abritée dans l'ombre de Saint-Germain-des-Prés et les briques rouges des vieux bâtiments de l'école de chirurgie où stationnaient quelques coupés de maîtres à la somptueuse livrée de messieurs les professeurs. Peu de passants, des pigeons picorant à même le trottoir qu'elle fit envoler en arrivant devant le magasin, moitié librairie, moitié curiosité, qui étalait juste en face de l'école son enseigne archaïque bien à sa place dans ce recoin du vieux Paris. Boss, archiviste, paléographe. Il y avait de tout à cette devanture. Anciens manuscrits, livres de raison aux tranches piquées de moisissures, antiques missels dédorés, fermoirs, gardes de livres, puis collés sur les hautes vitres des assignats de vieilles affiches, plans de Paris, complaintes, bons de poste militaire tachés de sang, autographes de tous les temps, une poésie de Madame Lafarge, deux lettres de Chateaubriand à Perluzet-Bottier, et des noms de célébrités anciennes et modernes sous des invitations à dîner, quelquefois des demandes d'argent, des aveux de détresse ou des confidences d'amour, à donner la terreur et le dégoût d'écrire. Ces autographes portaient tous leurs chiffres de vente. Et Madame Astier, arrêtée un moment à la vitrine, pouvait voir, près d'une lettre de Rachel, côté 300 francs, un billet de Léonard Astier réu à son éditeur Petit Sécart, 2,50 francs. Mais ce n'est pas cela qu'elle cherchait derrière l'écran de soie verte qui masquait l'intérieur, le profil de l'archiviste paléographe, l'homme à qui elle aurait affaire. Une appréhension lui venait à la dernière minute, pourvu qu'il fût là seulement. Mais l'idée que son Paul attendait la fit entrer enfin dans le noir, le refermé, poussiéreux de la boutique. Et sitôt introduite vers un second petit cabinet au fond, elle entreprit d'expliquer à M. Boss, un gros rouge ébouriffé, tête d'orateur de réunion publique, leur détresse momentanée et comment son mari n'avait pu se décider à venir lui-même. Oh, il ne la laissa pas mentir toute son histoire. « Mais comment donc, madame ?» Tout de suite, un chèque sur le Crédit Lyonnais et des égards, des saluts de reconduite jusqu'au fiacre. « Une femme bien distinguée, pensait-il, enchantée de son acquisition. Et elle, en dépliant le chèque glissé dans son gant, relisant le bienheureux chiffre, songeait « Quel homme charmant !» Du reste, nul remords, pas même ce petit sursaut de la mauvaise action accomplie. La femme ne connaît pas ces choses-là. Tout à son désir de l'heure présente, elle a des œillères naturelles qui l'empêchent de voir autour d'elle, lui épargnent les réflexions dont l'homme encombre ses actes décisifs. De temps en temps, celle-ci pensait bien à la colère de son mari, constatant le vol. Mais cela lui semblait confus, très lointain, peut-être même était-elle heureuse d'ajouter cette épreuve à tous les tremblements ressentis depuis la veille. « Encore ça que mon enfant me coûte !» C'est que, sous ses dehors tranquilles, sous sa patine de mondaine académique, il y avait chez elle ce qu'il y a chez toutes, du monde ou pas du monde, la passion. Le mari ne la trouve pas toujours, cette pédale qui met le clavier féminin en mouvement. L'amant lui-même la manque quelquefois, mais jamais le fils. Dans le triste roman sans amour que son temps d'existence de femme, c'est lui le héros, le grand premier rôle. À son Paul, surtout depuis qu'il avait l'âge d'homme, Madame Astier devait les seules vraies émotions de sa vie, les délicieuses angoisses de l'attente, les pâleurs, les froids, les brûlures au creux des mains, les intuitions surnaturelles qui font dire infailliblement « Le voilà !» avant que la voiture s'arrête. Toute chose ignorée d'elle-même aux premières années du mariage, même au temps où le monde l'accusait de légèreté. À Léonard d'Astier disait avec bonhomie « C'est singulier, je ne fume jamais, et les voilettes de ma femme sentent le tabac. » Oh, son affolement d'inquiétude quand elle arriva rue Fortuny, et qu'un premier coup de sonnette resta sans réponse. Muet et clos, sous son grand toit à crête de zinc, le petit hôtel Louis XII, tant admiré pourtant, lui apparut tout à coup sinistre, et non moins sinistre la maison de rapport, fortement Louis XII aussi, dont les deux étages supérieurs montraient des files d'écriteaux, alloués, alloués, en travers des hautes fenêtres à meneaux. Au second coup de timbre, frémissant et retentissant, celui-là, Stern, le rageur petit domestique, très en tenue, sanglé dans sa livrée bleue de ciel, se montra enfin sur le seuil, assez embarrassé, bégayant ses réponses. Pour sûr que M. Paul était là, seulement... La malheureuse mère, depuis la veille hantée par l'idée d'une catastrophe, s'imagina son fils râlant, sanglanté, et d'un élan franchit le couloir, les trois marches de l'atelier-salon, où elle entra en suffoquant. Paul travaillait debout devant sa table, haute, dans l'embrasure d'un magnifique vitrail, dont un panneau ouvert éclairait le lavis en train, la boîte d'aquarelle étalée, tandis que les fonds de la pièce reculaient dans un odorant et voluptueux demi-jour. Il restait absorbé par son travail, comme s'il n'eût pas entendu l'arrêt de la voiture, ensuite les deux coups de timbre et le rapide battement d'une robe dans le couloir. Mais ce n'était pas cette pauvre robe noire, fripée, qu'il attendait. Ce n'était pas pour elle qu'il posait le profil sur son esquisse, ni pour elle non plus, qu'il avait préparé ses frêles bouquets de grandes fleurs, iris et tulipes, et sur une petite table anglaise un drageoir et des flacons ciselés. En se retournant, son exclamation « Ah, c'est toi !» aurait averti tout autre que la mère. Mais elle n'y prit pas garde, éblouie de le voir là, en face d'elle, correct et joli, bien vivant, et sans parler encore, son gant vivement déboutonné, elle lui tendit le chèque triomphante. Il ne demanda pas d'où venait cet argent, ce qu'il lui avait coûté, la prit tendrement contre son cœur en ayant soin de ne pas chiffonner le papier, « Maman !» et ce fut tout. Elle était payée, sentant cependant une gêne en son enfant au lieu de la grande joie qu'elle attendait. « Et où vas-tu en sortant d'ici ? » fit-il d'un ton rêveur, toujours son chèque à la main. « En sortant d'ici ?» Elle le regardait, égarée, triste. Mais elle arrivait seulement. Elle comptait bien passer un bon moment avec lui, enfin, puisque cela le gênait. « Où je veux ? Chez la princesse. Oh, c'est pas pressé !» Si ennuyeuse, a toujours pleuré son Herbert. On croit qu'elle n'y pense plus. Et puis ça repique de plus belle. » Sur les lèvres de Paul hésita quelque chose qu'il ne dit pas. « Eh bien, rends-moi un service, maman. J'attends quelqu'un. Va toucher ceci pour moi et retirer mes traites de chez l'huissier, tu veux ?» Si elle voulait. En s'occupant de lui, ne serait-elle pas avec lui plus longtemps ? Et pendant qu'il signait, la mère regardait autour d'elle l'atelier tendu de tapis et de guipures, où, à part un X en vieux noyer, quelques moulages historiques, des fragments d'entablement accrochés çà et là, rien ne disait la profession de l'habitant. Et songeant à ses transes de tout à l'heure, la vue des bouquets à grandes tiges, du linge servi près du divan, lui suggéra que ce n'était de singuliers apprêts de suicide. Elle sourit sans la moindre rancune. Ah, le joli monstre! Et se contenta de lui dire en montrant du bout de son ombrelle le drageoir rempli de fondant. Mais pour te faire sauter, là, comment dis-tu ça? Lui aussi se mit à rire. Oh non, tout est changé depuis hier. Mon affaire, tu sais, la grosse affaire dont je t'ai parlé. Eh bien, cette fois, je crois que ça va y être. Tiens, c'est comme la mienne. Ah oui, Samy, le mariage. Leurs jolis yeux faux, d'un gris dur et semblable à un peu d'étain chez la mère, se croisaient, se fouillaient un moment. « Et tu vas voir que nous serons trop riches, » dit-il enfin. Et la poussant doucement dehors, « Sauve-toi, sauve-toi !» Le matin, un billet de la princesse avait averti Paul qu'elle viendrait le prendre chez lui pour aller là-bas. Là-bas, c'est-à-dire au Père Lachaise. Depuis quelque temps, Herbert repiquait, comme disait Madame Astier. Deux fois par semaine, la veuve portait des fleurs au cimetière. Les flambeaux, le prie-dieu pour la chapelle, activaient et surveillaient les ouvriers. Une vraie recrudescence de faveurs conjugales. C'est qu'après un long et pénible débat entre sa vanité et son amour, la tentation de rester princesse et le charme fascinant de ce délicieux Paul Astier, débat d'autant plus cruel qu'elle ne le confiait à personne qu'au pauvre Herbert tous les soirs dans son journal. Tout à coup, la nomination de Samy avait emporté sa résolution. Il lui paraissait convenable, avant de prendre un nouveau mari, d'enterrer le premier définitivement, d'en finir avec ce mausolée et l'intimité dangereuse du trop séduisant architecte. Paul Astier s'amusait, sans les comprendre, des trépidations de cette petite âme affolée. Il voyait un symptôme excellent, la crise suprême des grandes décisions. Seulement trop longue, et il était pressé. Il fallait brusquer le dénouement, profiter de cette visite de Colette longtemps attendue, longtemps remise, comme si, malgré sa curiosité de connaître l'installation du jeune homme, la princesse avait eu peur d'un tête-à-tête, plus complet là que dans son propre hôtel ou dans son coupé, sous la surveillance de la livrée toujours présente. Oh non, qu'il eût montré trop de hardiesse, frôleur enveloppant, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Mais elle se redoutait elle-même, donnant en cela raison à ce jeune impertinent qui, très adroit stratège en amour, l'avait à première vue classé dans la catégorie des villes ouvertes. Il désignait ainsi les mondaines, très défendues et bastionnées en apparence, gardées d'amant et d'aval, par le fleuve et par la montagne, haut perché, inattaquable, et qui en réalité s'enlève d'un coup de main. Cette fois pourtant, son intention n'était pas de donner l'assaut. Quelques approches un peu vives, une heure ou deux de pressant flirtage, assez pour marquer la femme à sa griffe, sans l'humilier. Le congé du mort signifiait positivement, puis le mariage et les 30 millions. Voilà le rêve heureux que Madame Astier avait interrompu et qu'il reprenait à la même table, dans la même pause méditative, quand un nouveau coup de timbre retentit tout l'hôtel. Des pourparlers, des retards, Paul ouvrit sa porte impatienté. « Mais qu'est-ce que c'est ?» La voix d'un grand valet de pied, vêtu de noir, découpant sa silhouette sur la rue éclaboussée de pluie, lui répondit de loin avec une respectueuse insolence que Madame la Princesse attendait monsieur dans la voiture. Paul Astier eut le courage de crier en étranglant « J'y vais !» Mais quelle rage! Que d'ignobles injures bégayées contre ce mort dont le souvenir l'avait sûrement retenu. Presque aussitôt, l'espoir d'une revanche, probablement très bouffonne et à courte date, remit ses traits en place pour rejoindre la princesse, aussi maître de lui que d'habitude, ne gardant de sa colère qu'un peu plus de pâleur aux joues. Très chaud le coupé dont on avait dû relever les glaces à cause de l'ondée subite. D'énormes bouquets de violettes, des couronnes lourdes comme des tourtes, changeaient les coussins autour de Madame de Rossen, emplissaient ses genoux. « Oh, ces fleurs vous gênent peut-être. Désirez-vous que j'ouvre ? » demanda-t-elle avec cette câlinerie gentiment hypocrite de la femme qui vient de vous jouer un mauvais tour, mais voudrait qu'on reste amis quand même. Paul eut un geste évasif, très digne. Qu'on ouvrit, qu'on fermât, cela lui était parfaitement égal. Toute dorée et rose, sous ses tons voiles de veuve, reprit les jours de cimetière, la princesse se sentait mal à l'aise, aurait préféré des reproches. Elle était si cruelle envers ce jeune homme, bien plus cruelle encore qu'il ne pensait, hélas. Et la main doucement sur celle de Paul, « Vous m'en voulez ?»«
Lui, oh, pas du tout, de quoi lui en aurait-il voulu ?»«
Bien, de n'être pas rentré. C'est vrai que j'avais promis, puis au dernier moment, je ne croyais pas vous faire tant de peine. »«
Vous m'en avez fait beaucoup. » Oh, ces hommes corrects, ces hommes de tenue, quand un mot de sensibilité leur échappe, quelle valeur il prend au cœur de la femme. Cela la retourne presque autant que de voir pleurer un officier en uniforme.
Non, 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 je vous en prie, n'ayez plus de chagrin à cause de moi. Dites que vous ne m'en voulez plus.
Elle lui parlait de tout près, penchée vers lui, laissant crouler ses fleurs, rassurée contre tout danger par les deux larges dos noirs, les hauts chapeaux à cocarde noire qu'un grand parapluie abritait sur le siège.
« Écoutez, je vous promets de venir une fois, au moins une fois avant. »
Elle s'arrêta épouvantée. Dans la sincérité de son effusion, n'allait-elle pas lui avouer leur séparation prochaine, son départ à Pétersbourg? Et se reprenant bien vite, elle jura de venir le surprendre un après-midi où elle n'irait plus là-bas ensuite.
« Mais vous y allez tous les jours là-bas, » dit-il, les dents serrées, avec une si comique intonation de rage froide qu'un sourire frissonna sous le voile de la veuve qui abaissa la glace par contenance.
L'averse avait cessé. Dans la rue faubourienne, misérable et joyeuse, où le coupé s'engageait, un chaud soleil, presque d'été, annonçait la fin des misères, faisait reluire les étalages sordides, les petites charrettes au ras des ruisseaux, le coloriage des affiches, les guenilles flottant aux fenêtres. La princesse regardait indifférente, car rien n'existe des trivialités de la rue pour les gens habitués à ne la voir que des coussins de leur voiture suspendus à deux pieds de terre. Le doux balancement, les glaces intactes, font à ces privilégiés une vision à part, désintéressés de tout ce qui n'est pas au niveau de leur regard. Et Madame de Rosen pensait « Comme il m'aime, comme il est bien !» L'autre, certainement, avait plus grand air, mais avec celui-là, se traitait plus gentil. « Ah, la vie la plus heureuse n'est qu'un service dépareillé. Il n'y a jamais de complet assortiment. » On approchait du cimetière. Des deux côtés de la chaussée, les hangars des marbriers montraient des blancheurs dures, des dalles, des statues, des croix mêlées à l'or des immortels, aux jets noirs ou blancs des couronnes et des ex-voto.
« Et Védrine, sa figure, à quoi nous décidons-nous » demanda-t-il brusquement du ton d'un homme qui ne veut que parler affaire.
Ben, « c'est que... » Et tout éploré.
« Oh, mon Dieu, je vais vous faire encore de la peine. »«
Moi, mais pourquoi donc ?»
La veille, ils étaient retournés voir une dernière fois le paladin avant qu'on l'envoyât à la fonte.
Déjà, à une première visite, la princesse avait été fâcheusement impressionnée, moins encore par la sculpture de Védrine à peine regardée, que par cet étrange atelier où poussaient des arbres, où les lézards et des cloportes couraient sur les murailles. Puis, tout autour de ces des ruines, des plafonds effondrés, sentant encore l'incendie, la révolution. Mais de cette seconde entrevue, la pauvre petite femme était revenue littéralement malade. « L'horreur des horreurs, ma chère !» Ainsi exprimait-elle sa vraie impression le soir même à Madame Astier, ce qu'elle avait osé dire à Paul, le sachant ami du sculpteur, et aussi parce que ce nom de Védrine était des trois ou quatre que la convention mondaine choisit à l'envers de son goût, de son éducation, et admire follement, sans savoir pourquoi, par une prétention à l'originalité artistique. Cette informe et grossière figure sur la tombe de son Herbert. Oh non, non, non. Mais c'est le prétexte à donner qu'elle ne trouvait pas. Voyons, monsieur Paul, entre nous. Oh, sans doute c'est un morceau superbe, un beau Védrine, certainement. Mais convenez que c'est un peu triste. Madame, pour un tombeau. Puis, si vous voulez que je vous dise. Et elle avoua, hésitante, que cet homme tout nu sur son lit de camp ne lui paraissait vraiment pas convenable. On pouvait croire à un portrait. Que voyez-vous, mais ce pauvre Herbert, si réservé, si correct, de quoi aurait-on l'air? Le fait est qu'on y songeant, fit Paul très sérieux, et jetant son ami Védrine par-dessus bord aussi tranquillement qu'une portée de petits chats. Après tout, si cette figure vous déplaît, on en mettra un autre, ou même pas du tout. Ce sera plus saisissant, la tente vide, le lit dressé et personne. La princesse, ravie, surtout à l'idée qu'on ne verrait pas le vilain couche tout nu. Oh, quel bonheur, comme vous êtes gentil. Attendez, maintenant, puis-je vous le dire? J'en ai pleuré toute la nuit. Comme toujours, en arrêtant au grand portail, le valet de pied prit les couronnes et s'y vit à distance, pendant que Colette et Paul montaient sous le soleil lourd par un chemin amolli des averses de tout à l'heure, et elle s'appuyait à son bras, s'excusait de temps en temps. « Je vous fatigue. » À quoi lui faisait non de la tête avec un sourire triste. Peu de monde au cimetière. Un jardinier, un gardien, saluaient respectueusement au passage la princesse, une habituée, mais lorsqu'ils eurent quitté l'avenue, franchi les terrasses supérieures, ce fut la solitude et l'ombre avec des cris d'oiseaux sous les feuilles, mêlés à ce grincement des scies, à ces coups métalliques d'instruments taillant la pierre, qu'on entend toujours au Père-Lachaise, comme dans une ville jamais finie, en permanente construction. Deux ou trois fois, Madame de Rosen avait surpris le regard irrité de son compagnon vers le grand laquais en longue lévite, cocarde au chapeau, éternel et lugubre accompagnateur de leur amour, et dans son empressement à lui plaire aujourd'hui. « Attendez, dit-elle en s'arrêtant. » Elle se chargea elle-même des fleurs, des couronnes, puis congédia le domestique, et ils furent tout à fait seuls dans l'allée tournante. Cette attention gentille ne défronça pas les sourcils de Paul, et comme il avait passé au bras qui lui restait libre trois ou quatre disques de violettes russes immortelles, lilas de Perse, sa colère contre le défunt montait encore. Il pensait rageusement « Tu me paieras ça !» Elle, au contraire, se sentait singulièrement heureuse, épanouie dans cet égoïsme de santé et de vie qui nous prend aux endroits de mort. Peut-être la chaleur du jour, ses fleurs embaumées, mêlant leur arôme à celui plus fort des ifs et des buis, de la terre bouillée et s'évaporant au soleil, et aussi à une autre odeur âcre, fade, pénétrante qu'elle connaissait bien, mais qui ce jour-là ne l'écœurait pas, comme ordinairement et la grisait plutôt. Tout à coup, elle frissonna. Sa main sur le bras du jeune homme, il venait de la saisir dans la sienne, brusquement, et il la serrait, l'étreignait comme un corps de femme, cette petite main qui n'avait pas le courage de s'en aller. Il cherchait à en écarter les doigts menus pour les croiser aux siens, y entrer et la voir toute. Mais la main résistait, se contractait sous le gant. Non, non, jamais. Et pendant ce temps-là, ils continuaient à marcher l'un près de l'autre, sans parler, sans se regarder, très émus, car tout est relatif dans la volupté, et c'est la résistance qui fait le désir. Enfin, elle se donna, s'ouvrit, cette petite main serrée, et leurs doigts se crochèrent à écarteler leurs gants. Une minute délicieuse de plein aveu, de possession complète. Mais tout de suite l'orgueil de la femme se révéla. Elle voulut parler, prouver qu'elle restait intacte, que cela se passait bien loin, loin d'elle, même qu'elle l'ignorait parfaitement. Elle ne trouvait rien à redire. Alors elle lisait tout haut l'épitaphe d'une tombe à plat dans les ronces, Augusta 1847, et lui haletant murmurait « Bon, une histoire d'amour sans doute !» Des merles sifflaient sur leur tête, des mésanges grinçant un peu comme ce bruit de Baptiste qui ne cessait pas au lointain. Ils arrivaient dans la 20e division, cette partie du cimetière qui est comme le vieux Paris du Père Lachaise, les allées plus étroites, les arbres plus hauts, les tombes plus serrées, un enchevêtrement de grilles, de colonnes, de temples grecs, de pyramides, d'anges, de génies, de bustes, d'ailes ouvertes ou repliées. De ces tombes vulgaires, baroques, originales, simples, emphatiques, prétentieuses ou timides, comme furent les existences qu'elles recouvraient. Les uns avaient la pierre de leur caveau fraîchement ravalée, chargée de fleurs d'ex-voto et de petits jardins d'une grâce minuscule et chinoise. À d'autres verdissaient ou se fendaient les dalles moussues, chargées de ronces et d'herbes hautes, mais toutes montraient des noms connus, des noms bien parisiens, notaires, magistrats, commerçants, notables, alignant là leur devanture comme au quartier de Bazoches ou de Négoce, et même de doubles noms alliant deux familles, associations de richesses ou de situations, signatures prospères disparues du bottin, des ordres de banquets se retrouvant immuables sur les caveaux. Et Madame de Rosen les signalait « Tiens, les un tel !» de la même exclamation, surprise et presque joyeuse, dont elle saluait une voiture au bois « Mario, était ce chanteur ?» toujours pour feindre d'ignorer l'étreinte de leurs deux mains. Mais la porte d'un caveau grinça près d'eux. Quelqu'un se montra, une grosse dame en noir, ronde et fraîche, qui portait un petit arrosoir, faisait son ménage mortuaire, soignait le jardinet, la chapelle tranquille, comme à la campagne dans un cabanon marseillais. Par-dessus l'entourage, elle les salua d'un bon sourire affectueux et résigné qui semblait dire « Allez, aimez-vous, la vie est courte. Il n'y a que cela de bon. » Gênés, leurs mains se décroisèrent. Et subitement allégée du mauvais charme, la princesse passa devant, un peu confuse, prit au plus court à travers les tombes pour joindre plus vite le mausolée du prince. Il occupait, tout en haut de la 20e, un vaste terre-plein gazonné et fleuri que fermait une grille en fer forgé, basse et lourde, dans le sentiment de la grille du tombeau des Scaligères à Florence. L'aspect général, ainsi voulu, était trapu et fruste. Bien la tente primitive à gros plis rudes des toiles passées au Bénin dans la pierre dalmate donnait les tons rougeâtres. Trois larges degrés de cette même pierre, puis la baie s'ouvrait, flanquée de piédestaux et de hauts trépieds funéraires en bronze noir, comme vernissés. Au-dessus de l'entrée, les armes des Rosen dans un grand cartouche de bronze encore, qui suspendait ainsi devant sa tente l'écu du bon chevalier endormi. La grille franchie, les couronnes posées un peu partout aux deux piédestaux sur les bordes inclinées, faisant comme d'énormes piquets de tente au ras du soubassement, la princesse vint s'agenouiller tout au fond dans l'ombre de l'autel où luisaient les franges d'argent de deux prie-dieu, le vieil or d'une croix gothique et de chandeliers massifs. Il faisait bon là pour prier dans la fraîcheur des dalles et ses revêtements de marbre noir où le nom du prince Herbert étincelait avec tous ses titres en face de versets de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Mais rien ne venait à la princesse que des mots, un marmottement distrait d'idées profanes qui lui faisait honte. Elle se levait, s'agitait autour des jardinières, s'éloignait à point pour juger de l'effet du lit en sarcophage. Et déjà était posé le coussinet de bronze noir chiffré d'argent, et elle trouvait cela simple et beau, cette dure couche sans rien dessus. Pourtant, il fallait consulter M. Paul, dont on entendait les pas d'attente sur le gravier du jardinet, et tout en approuvant sa discrétion, elle allait l'appeler quand le caveau s'assombrit. La pluie se remit à teinter sur les trèfles vitrés de la coupole. « Monsieur Paul! Monsieur Paul !» Assise au bord d'un piédestal immobile, il supportait l'ondée et répondit d'abord par un muet refus. « Mais entrez donc !» Il résistait et, très bas, très vite. « Non, je ne veux pas, vous l'aimez trop. »«
Si, si, venez !»
Elle l'attira par la main sur l'entrée du caveau, mais les éclaboussements les faisaient reculer peu à peu jusqu'au sarcophage, où il s'accotait debout et rapproché, regardant, sous le ciel bas et brouillé, tout le vieux Paris de la mort en pente devant eux, précipitant ses minarets, ses statues grises et sa basse multitude de pierres dressées en dolmens parmi les verdures luisantes. Nul bruit, ni chant d'oiseaux, ni grincement d'outils, rien que l'eau s'écoulant de toutes parts, et sous la toile d'un monument en construction, deux monotones voix d'ouvriers se comptant les misères du travail. Les fleurs embaumaient dans cette réaction chaude que fait à l'intérieur la pluie du dehors, et toujours, toujours, l'autre arôme indémêlable. La princesse avait relevé son voile, elle défaillait, la bouche sèche, comme tout à l'heure en montant l'allée. Et tous deux, muets, immobiles, faisaient si bien partie du tombeau qu'un petit oiseau, couleur de rouille, vint en sautillant, secouer ses plumes, piquer un ver entre les dalles. « C'est un rossignol !» dit Paul tout bas dans le silence oppressant et doux. Elle voulut demander « Est-ce qu'il chante encore en ce mois-ci » Mais il l'avait prise, assise dans ses genoux au bord du lit de granit, et lui renversant la tête, il appuyait sur sa bouche entr'ouverte un lent, un profond baiser qu'elle lui rendit follement. « Parce que l'amour est plus fort que la mort, » disait le verset de la Sultamite écrit au-dessus d'eux, dans le marbre du mur. Quand la princesse rentra rue de Courcelles, où Madame Astier l'attendait, elle pleura longtemps sur son épaule, passée des bras du fils dans ceux de la mère, aussi peu sûrs l'un que l'autre, avec un débord de plaintes de paroles entrecoupées.
« Oh, mon ami, je suis malheureuse, si vous saviez, si vous saviez !»
Son désespoir était grand autant que son embarras devant cette inextricable situation, formellement promise au prince d'Athis, et venant de s'engager avec ce charmeur, cet envoûteur qu'elle maudissait de toute son âme. Mais le plus cruel, c'était de ne pouvoir confier sa faiblesse à l'ami tendre, car elle pensait bien qu'au premier mot d'aveu, la mère se mettrait avec son fils contre Samy, pour le cœur, contre la raison, la contraindrait peut-être à ce mariage de rupture, à cette déchéance impossible. « ben quoi, disait Madame Astier, sans s'émouvoir à ces explosions désolées. « Oh, vous venez du cimetière, j'imagine, mais vous êtes encore monté la tête. Voyons, à la fin des fins, ma pauvre Artémise. » Et connaissant les côtés vaniteux de cette nature, elle raillait ses démonstrations prolongées, ridicules aux yeux du monde, et pour le moins enlaidissantes, encore s'il s'agissait d'un nouveau mariage d'amour. Mais c'était plutôt l'alliance de deux grands noms qui se préparait, de deux titres semblables. Herbert lui-même, s'il la voyait de là-haut, ne pouvait être que satisfait. C'est vrai qu'il comprenait tout, pauvre ami, soupira Colette de Rosen, née Sauvadon, à qui l'ambassade tenait à cœur et, surtout, son titre de princesse. « Mais tenez, ma petite, voulez-vous un bon conseil? Filez, sauvez-vous. Samy partira dans 8 jours. Mais ne l'attendez pas, prenez l'aveu. Il connaît Pétersbourg, il vous installera en attendant. Sans compter que vous vous épargnerez ainsi quelques scènes pénibles avec la duchesse. C'est corse, vous savez, il faut s'attendre à tout. » Oui, partir peut-être. Madame de Rosen y voyait surtout l'avantage d'échapper à de nouvelles obsessions, d'éloigner la chose de là-bas, son égarement d'une minute. Et le tombeau? Ajouta Madame Astier devant son hésitation. C'est le tombeau qui vous inquiète? Mais Paul le finira bien sans vous. Allons, ne pleurez plus, mignonne. L'arrosage vous va, mais vous moisiriez à la fin. » Et s'en allant, dans le jour qui tombait, attendant l'omnibus du roule, la bonne dame soupirait. « Oui, ouf, Dathis ne saura jamais ce que son mariage me coûte. » Alors le sentiment de sa fatigue, le besoin qu'elle aurait eu d'un bon repos après tant de corvées, la fit songer subitement que la plus fatigante de toutes l'attendait. La rentrée, la scène. Elle n'avait pas encore eu le temps d'y arrêter son esprit. À présent, elle y courait. Chaque tour de roue de la lourde voiture l'en rapprochait. D'avance, elle en frissonnait toute, non de peur, mais les cris, la démence, la grosse voix brutale d'Astier Réhue, ce qu'il faudrait répondre, et la mal qu'on allait revoir. Mon Dieu, quel ennui! Si las de sa nuit, de sa journée. Oh, pourquoi cela ne pouvait-il être pour demain? Et la tentation lui venait, au lieu d'avouer tout de suite « Oui, c'est moi !» de détourner les soupçons sur quelqu'un, tes cèdres, par exemple, jusqu'au lendemain matin. Au moins, elle aurait ainsi sa nuit tranquille. « Ah, voilà madame! Oh, il y en a du nouveau !» dit Corentine, accourant ouvrir, bouleversée, sa petite vérole plus ressortie que d'habitude, comme dans les grandes émotions. Madame Astier voulut gagner sa chambre, mais la porte du cabinet s'était ouverte. Un impérieux « Adélaïde !» la força d'entrer. Léonard l'accueillit avec une figure extraordinaire qu'éclairait la lampe sous son globe. Il lui prit les deux mains, la tira bien dans la lumière, puis d'une voix tremblante, « L'oisillon est mort !» et il l'embrassa sur les deux joues. Rien, il ne savait rien encore, n'était pas monté aux archives. Il marchait depuis 2 heures dans son cabinet,
impatients de la voir, de lui donner cette nouvelle si importante pour eux, toute leur vie chargée avec ces trois mots. L'oisillon est mort. Chapitre 7. Fredet. Ah, Mademoiselle Germaine de Fredet, Clos Jallanges. Tes lettres me désolent, ma chère sœur. Tu t'ennuies, tu souffres, tu me voudrais là. Mais comment faire? Rappelle-toi le conseil de mon maître. Montrez-vous, qu'on vous voie. Et penses-tu que c'est à Clos Jallanges, dans mes houseaux et mon gilet de chasse, que je pourrais préparer ma candidature? Car il n'y a pas à dire, le moment est proche. L'oisillon baisse à vue d'œil et je mets à profit les délais de cette lente agonie pour me créer, dans l'académie, des sympathies qui deviendront des voix. Léonard Astier m'a déjà présenté à plusieurs de ces messieurs. Je vais le prendre souvent après la séance, et c'est délicieux, cette sortie de l'Institut, ces hommes presque tous aussi chargés d'an que de gloire, s'en allant bras dessous, par groupes de trois, quatre, vifs, rayonnants, parlant haut, tenant le trottoir, les yeux encore humides des bonnes parties de rire qui viennent de faire là-dedans. « Ce paillot, quel verbe !»« Eh, comme d'Anjou lui a répondu !» Moi, je me carre au bras d'Astieréu, dans le cœur des immortels. J'ai l'air d'en être, puis les groupes s'égrènent. On se sépare à un coin de pont en se criant « Je dis, ne manquez pas !» Et je reviens rue de Beaune, accompagner mon maître, qui m'encourage, me conseille, et sûr du succès, me dit avec son large rire « On a 20 ans de moins quand on sort de là !» Réellement, je crois que la coupole les conserve. Où trouver un vieillard aussi ingambe que Jean Réhu, dont nous fêtions hier soir en chez voisin le 98e anniversaire. Une idée de Lavaux, ce festival, et qui, si elle me coûte 50 louis, m'a permis de compter mes hommes. Nous étions 25 à table, tous académiciens, hormis Picheral, Lavaux et moi. Là-dessus, 17 ou 18 voix acquises, le reste encore flottant, mais sympathique. Dîner très bien servi, très causant. Ah, j'y pense. J'ai invité Lavaux à Clos Jallanges pendant les vacances de la Mazarine, où il est bibliothécaire. On lui donnera la grande chambre de retour devant la faisanderie. Je ne crois pas très bon, ce Lavaux, mais il faut l'avoir. C'est le zèbre de la duchesse. T'ai-je dit que nos mondaines appellent ainsi l'ami garçon, oisif, discret, rapide, qu'on a toujours sous la main pour les courses, les démarches délicates dont on ne peut charger un domestique. Sorte de courrier entre puissances. Le zèbre, quand il est jeune, fait quelquefois de doux intérims. Mais d'ordinaire, l'animal se montre sobre, facile à nourrir, se paye de menus suffrages, des places au bout de la table et de l'honneur de piaffer pour la dame et pour son salon. J'imagine que Lavaux a su tirer autre chose de son emploi. Il est si adroit, si redouté malgré son air bonasse. Marmite ton chef dans deux cuisines, comme il dit, l'académique et la diplomatique. Il me signale les fondrières, chausse-trappe dont le chemin de l'Institut est miné et que mon maître Astier ignore encore. Pauvre grand naïf qui a fait l'ascension droit devant lui, sans se doter des lois en danger, les yeux vers la coupole, se fiant à sa force, à son œuvre, et qui se serait 100 fois rompu le cou si sa femme, fine entre les fines, ne l'avait guidé à son insu. C'est Lavaux qui m'a détourné de publier, d'ici la prochaine vacance de fauteuil, mes pensées d'un rustique. « Non, non, m'a-t-il dit, vous avez assez fait. Si même vous pouviez donner à entendre que vous ne produiriez plus, que vous êtes fini à bout, simple homme du monde, l'Académie adore cela. » à joindre aux précieux avertissements de Pichal. Ne leur portez pas de vos livres. Je vois que moins on a d'œuvres, plus on a de titres. Très affluent, le Pichal, encore un que nous aurons cet été. Une chambre du second, peut-être l'ancien Certou, tu verras. Ah, voilà bien du tracas, ma pauvre Germaine, et dans ton état de souffrance, mais que veux-tu? C'est déjà si fâcheux de ne pas avoir maison à Paris pendant l'hiver, de ne pas recevoir comme Dalzon, Moser et tous mes autres concurrents. Ah, soigne-toi, guéris-toi, mon Dieu. Ah, pour revenir à mon dîner, on y a naturellement beaucoup parlé de l'académie, de ses choix, de ses devoirs, du bien et du mal que le public en pense. Selon nos immortels, tous les détracteurs de l'institution, tous, sont de pauvres hères qui n'ont pu y entrer. Quant aux oublis en apparence, inexplicables, chacun eut sa raison d'être. Et comme je citais timidement le nom de Balzac, notre grand compatriote, le romancier d'Esminière, l'ancien organisateur des charades de Compiègne, s'est emporté vivement. « Balzac, mais l'avez-vous connu? Savez-vous, monsieur, de qui vous parlez? Le désordre, la bohème. Un homme, monsieur, qui n'a jamais eu 20 francs dans sa poche. Je tiens son détail, de son ami Frédéric Lemaître. Jamais 20 francs! Et vous auriez voulu que l'Académie... » Alors le vieux Jean Réhu, la main en cornet sur l'oreille, a compris qu'on parlait de jetons, et nous a conté ce joli trait de son ami Suard venant à l'Académie le 21 janvier 93, le jour de la mort du roi, et profitant de l'absence de ses collègues pour rafler à lui tout seul les 240 francs de la séance. Il narre bien, le vieux père. J'ai vu ça, et sans sa surdité, serait un brillant causeur. À quelques vers dits par moi en toast à son étonnante vieillesse, le bonhomme a répondu avec beaucoup de bienveillance en m'appelant son cher collègue. Mon maître Astier le reprend. Futur collègue. Rire, bravo. Et c'est ce titre de futur collègue qu'ils m'ont tous donné en me quittant avec des poignées de main vibrantes, significatives des « au revoir, à bientôt » qui faisaient allusion à ma prochaine visite. Un baiser jaune, ces visites académiques, mais puisque tout s'y passe. Astier Réhu me racontait en sortant du dîner voisin que, lors de son élection, le vieux Dufour l'avait laissé venir 10 fois sans le recevoir. Eh bien, le maître s'est entêté, et à la 11e visite, la porte s'ouvrait toute grande. Il faut vouloir. Et je fais en ce moment le métier le plus bas et le plus ennuyeux. Je sollicite pour l'Académie, dit Mérimée dans sa correspondance. Et quand des hommes de cette valeur nous ont donné l'exemple de la platitude, aurions-nous bien le droit de nous montrer plus fiers qu'eux? En réalité, si Ripobabin ou Loisillon mourait, tous deux sont en danger, mais c'est Ripobabin qui m'inspire encore le plus de confiance. Mon seul concurrent sérieux serait Dalzon. Du talent, de la fortune, très bien avec les ducs, une cave excellente. Il n'a contre lui qu'un péché de jeunesse récemment découvert, toute nue, plaquette en 600 vers, publiée à Aéropolis, sans nom d'auteur et d'un raid. On prétend qu'il a tout racheté, mais au pilon. Mais qu'il circule encore quelques exemplaires signés et dédicacés. Le pauvre Dalzon proteste, se débat comme un diable, et l'Académie se réserve jusqu'au bout de son enquête. C'est pourquoi mon bon maître, sans préciser davantage, me déclarait gravement l'autre soir « Oh, je ne voterai plus pour M. Dalzon. » L'Académie est un salon, voilà ce qu'il faut comprendre avant tout. On n'y peut entrer qu'en tenue et les mains intactes.
Toutefois, je suis trop galant homme et j'estime trop mon adversaire pour me servir de ses armes cachées. Et Phage, le relieur de la cour des comptes, ce singulier petit bossu que je rencontre quelquefois dans l'atelier de Védrine, Phage, très au courant des curiosités de la bibliographie, a été rudement remis à sa place quand il m'a proposé un des exemplaires signés de toute nue. « Eh bien, ce sera pour Monsieur Bozère, » a-t-il répondu sans s'émouvoir. À propos de Védrine, ma situation devient embarrassante. Dans la ferveur de nos premières rencontres, je l'avais engagé à nous amener sa femme, ses enfants à la campagne. Mais comment concilier son séjour avec celui des Astiers et des Lavaux qu'il abomine? C'est un être si rude, si original. Comprends-tu qu'il est noble, marquis de Védrine, et que même à Louis le Grand, il cachait déjà son titre et sa particule que tant d'autres enviraient en ce temps de démocratie où tout s'acquiert, excepté cela. Son motif, il veut être aimé pour lui-même. Tâche de comprendre. En attendant, la princesse de Rosen refuse le paladin sculpté pour le tombeau du prince et dont on parlait sans cesse dans cette maison d'artistes souvent à court. Quand nous aurons vendu le paladin, on m'achètera un cheval mécanique, disait l'enfant. Et la pauvre mère comptait aussi sur le paladin pour remonter un peu ses armoires vides. Tandis que Védrine ne voyait dans cet argent du chef-d'œuvre que 3 mois de Flandre en damier sur le Nil. Eh bien, le paladin, non vendu ou payé, Dieu sait quand, après procès, expertise, si tu crois que cela les a désarçonnés le moins du monde. En arrivant à la cour des comptes, le lendemain de cette mauvaise nouvelle, j'ai trouvé mon Védrine installé devant un chevalet, heureux, ravi, jetant sur une grande toile l'étrange forêt vierge du monument incendié. Derrière lui, la femme, l'enfant extasié, et Madame Védrine me disant tout bas, très grave, berçant sa petite fille, « Oh, nous voilà bien heureux, Monsieur Védrine s'est mis à l'huile. » Ne laisse pas donner envie de rire et de pleurer. Chère sœur, le décousu de cette lettre t'apprend l'agitation, la fièvre de mon existence depuis que je prépare ma candidature. Je vais au jour des uns des autres, dîner, soirée. Ne me donne-t-on pas pour zèbre à la bonne mère Arsenlin, parce que je fréquente assidûment dans son salon le vendredi, et le mardi soir au français, dans sa loge. Zèbre bien rustique, en tout cas, malgré les modifications que j'ai fait subir à mon personnage, dans le sens doctrinaire et mondain. Attends-toi à des surprises pour mon retour. Lundi dernier, réception intime à l'hôtel Padovani, où j'ai eu l'honneur d'être présenté au grand-duc Léopold. Son Altesse m'a complimenté sur mon dernier livre, sur tous mes livres qu'elle connaît comme moi-même. Ces étrangers sont extraordinaires. Mais c'est avec les Astiers que je me plais le mieux, dans cette patriarcale famille, si unie, si simple. L'autre jour, après déjeuner, on apporte au maître un habit neuf d'académicien. Nous l'avons essayé ensemble. Je dis « nous » car il a voulu voir sur moi l'effet des palmes. J'ai mis l'habit, le chapeau, l'épée, une vraie épée, ma chère, qui se tire, montrant une rigole au milieu pour l'écoulement du sang. Et ma foi, je m'impressionnais moi-même. Enfin, c'est pour te montrer le degré de cette intimité précieuse. Puis, quand je rentre au calme de ma petite cellule, s'il est trop tard pour t'écrire, je fais toujours un peu de pointage. Sur la liste complète des académiciens, je marque ceux que je sais à moi, ceux qui tiennent pour Dalzon.
Je soustrais, j'additionne. Oh, c'est un divertissement exquis. Tu verras, je te le montrerai. Ainsi que je te disais, d'Alzon à l'Éduc. Mais l'auteur de la Maison d'Orléans, admis à Chantilly, doit m'y présenter avant peu. Et si je plais, j'apprends par cœur dans ce but une certaine bataille de Rocroi. Tu vois que ton frère acquiert de l'astuce. Donc si je plais, l'auteur de Toute nue à Aéropolis perd son plus sûr appui. Quant à mes opinions, je ne les renie pas. Républicain, oui, mais on va trop loin. Et puis candidat avant tout. Sitôt après ce petit voyage, je compte bien retourner près de ma Germaine, que je supplie de ne pas s'énerver, de songer à la joie du grand jour. Va, ma chère sœur, nous y entrerons dans le jardin de loi, comme dit ce bohémien de Vedrino. Mais il faut du courage et de la patience. Ton frère qui t'aime, Abel de Frédet. Quand je rouvre ma lettre, les geôlots du matin m'apprennent la mort de Loisiron. Ces coups du destin vous émeuvent, même quand ils sont attendus et prévus. Quel deuil, quelle perte pour les lettres françaises. Ma pauvre Germaine, voilà mon départ encore retardé. Règle les closiers. À bientôt, des nouvelles.